Des sous et des anneaux. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Marc Delecouve, bonjour.
Bonjour.
Je suis membre du conseil scientifique d'ATTAC.
Alors aujourd'hui, un gros morceau qui va nous valoir le plaisir de faire deux émissions ensemble, c'est l'accord général sur le commerce des services, ou AGCS. En réalité, quand on s'intéresse un petit peu aux propos des mouvements altermondialistes, comme il faut dire maintenant, on entend très rapidement parler de l'AGCS. L'embêtant, c'est que je ne comprends pas exactement ce que c'est, quel est le rapport avec l'OMC, est-ce que c'est le seul accord qui a été décidé par l'OMC, enfin je patauge dans le flou le plus absolu. Alors je compte sur vous pour m'expliquer tout ça et expliquer à nos auditeurs. Mais finalement, l'AGCS, c'est le seul accord décidé par l'OMC ou il y en a plein d'autres ?
En fait, l'OMC est fondée sur 12 accords et parmi les 12, il y en a 4 qui sont fondamentaux car ils déterminent les champs sur lesquels travaille l'OMC. Donc il y a un accord sur l'agriculture, il y a un accord sur le commerce des biens marchands non agricoles, il y a un accord sur la propriété intellectuelle, et il y a un quatrième accord qui couvre tout le champ des services.
Mais ça veut dire que c'est protéiforme, on pourrait dire, l'OMC, ça s'attaque un petit peu à tous les domaines, en particulier aux services.
Alors l'OMC s'attaque, concerne tous les domaines de l'économie et même, je dirais, de la vie humaine, et en particulier des services. Et de fait, au niveau en termes économiques et en termes d'activité humaine, le plus gros morceau, c'est les services.
Et justement, avant le GATT, on avait Suzanne Georges qui nous avait expliqué un petit peu la genèse de l'OMC. Le GATT, ça s'intéressait essentiellement aux échanges de biens marchands, si j'avais bien compris.
Alors, le GATT, ça s'intéressait uniquement aux biens non agricoles, et donc ne touchait pas aux biens agricoles, ni aux services, ni à la propriété intellectuelle. En outre, le GATT n'avait pas de pouvoir de faire appliquer ses décisions. C'était la bonne volonté des membres du GATT qui permettait l'application des décisions. Alors que l'OMC possède en son sein une sorte de tribunal qui s'appelle l'organe de règlement des différends.
Qui a le droit de punir les gens, les pays plutôt, s'ils ne font pas ce qu'on avait décidé de faire.
Alors c'est un système un peu complexe. En deux phrases, je dirais que c'est un système qui permet à un pays de sanctionner un autre pays qui aurait eu un comportement non loyal selon les règles de l'OMC, non loyal à l'égard du pays qui sanctionne. Et c'est l'OMC qui décide de la nature et de la hauteur des sanctions.
Non loyal, ça veut dire qu'il y a un pays qui n'aurait pas ouvert largement ses portes au bien du pays.
C'est un pays qui aurait ouvert ses portes moins largement qu'il ne s'y était engagé lors de la signature des accords et notamment lors des annexes des accords qui précisent quels sont les secteurs qui doivent être engagés, qui doivent être libéralisés.
Mmh. Si on revient un petit peu sur l'AGCS, avant le GATT, c'était plutôt des biens matériels, ma petite pendule, mon verre en plastique. Mais les services, c'est quoi ?
Alors les services, ça couvre en fait tout le monde des échanges, ou même hors échange d'ailleurs, toutes les activités humaines qui s'échangent ou qui ne sont pas échangées en termes marchands, en dehors des questions agricoles et des questions industrielles. Donc par exemple, il y a l'éducation, il y a tous les services de santé, les banques, l'architecture, la culture, etc., etc. On a aussi dedans la police, la justice. Mais d'entrée de jeu, il faut que je précise que un tout petit noyau de services n'est pas concerné par la GCS. Ce sont les services qui sont fournis exclusivement par l'État ou par les collectivités locales, et cela gratuitement et comme exclusivement, donc sans concurrence.
Donc ça veut dire par exemple que l'éducation nationale ne serait pas couverte puisqu'il y a quand même l'école privée actuellement en France chez nous.
Alors en France, il y a deux types. Dans le langage habituel, on parle d'école privée pour parler de soit d'école confessionnelle sous contrat avec l'État. Celle-là, a priori, l'OMC considérait que ça fait partie des services fournis par l'État ou les collectivités locales. Par contre, en France, il y a aussi, sur tous les secteurs de l'éducation, des fournisseurs de services qui sont indépendants de l'État. Et cela, enfin, leur propre existence, leur seule existence suffit pour permettre à l'OMC de considérer que toute l'éducation est potentiellement dans son champ.
Et globalement, c'est quoi les visées ultimes de cet AGCS ?
Mais ça, c'est une question fondamentale. Alors, les visées ultimes. Alors, il faut que j'explique, pour répondre à cette question, comment fonctionne la GCS. La GCS possède deux faces. Il y a une première face, c'est un ensemble de règles. Et il y a une seconde face, ce sont les secteurs qui sont soumis à ces règles, les secteurs de services qui sont soumis à ces règles. Alors d'abord, donc si on prend un secteur de services qui est soumis aux règles de la GCS, ce qui est le cas, par exemple, pour l'éducation fournie totalement par le privé, ce secteur, alors tout secteur totalement fourni, enfin engagé sous l'égide de la GCS, est en fait plongé dans le marché mondial, et il l'est de façon durable. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible pour les États qui ont décidé d'engager un secteur sous l'égide de la GCS, il est quasiment impossible de revenir en arrière. Et les lois qui président les lois de l'OMC concernant les secteurs engagés, concernant les secteurs plongés dans le marché mondial, c'est la libre concurrence d'une part, et d'autre part le libre-échange. Ça veut dire que ces règles fondamentales de l'économie libérale sont placées par l'OMC au-dessus de tout autre type de règles.
Justement, il me semble avoir lu en plus de ça que l'OMC, donc qui a normalement été la suite logique du GATT, n'était pas contrairement au GATT une institution de l'ONU, enfin placée sous l'égide de l'ONU. Donc du coup, effectivement, voyait le droit qui les dictait mis quasiment hors de portée de tous les autres droits.
Voilà. Donc du fait que l'OMC, lors de sa création, en fait, le GATT était sous l'égide de l'ONU. Et la réunion de Marrakech en 1994 de tous les pays membres de l'OMC, de tous les futurs pays membres de l'OMC, a décidé que l'OMC serait indépendante de l'ONU, ce qui fait que toutes les chartes internationales environnement, droits sociaux, droits fondamentaux, etc. de l'ONU ne s'appliquent pas à l'OMC. Donc l'OMC s'est libéré, si je puis dire, de tous les accords antérieurs internationaux.
Pour prôner la libéralisation, on verra ça tout à l'heure. Des sous et des hommes, et nous sommes toujours en compagnie de Marc Delepouf, du conseil scientifique d'Attac. Il y a certaines petites choses que j'ai pas trop bien comprises. En particulier, à un moment, vous parliez de secteurs qui étaient engagés par la GCS. J'ai pas vraiment bien suivi.
Voilà. Il y a des secteurs des services qui sont déjà soumis aux règles de la GCS et d'autres qui ne sont pas encore soumis, mais qui pourraient l'être bientôt ou bien plus tard dans le temps. Alors, la GCS, comme tout à l'heure je le disais, comporte deux faces. L'une face qui donne des règles et l'autre face qui donne les secteurs qui sont soumis à ces règles. En fait, dès 1995, année où a commencé à s'appliquer la GCS, certains secteurs ont vu les règles de la GCS s'appliquer. D'autres secteurs verront ces règles de la GCS s'appliquer à eux à partir de 2005. Et aujourd'hui, en ce moment, et cela depuis le début de l'année 2000, ont lieu à l'OMC des négociations qui vont aboutir au 1er janvier 2005 à l'engagement de nouveaux secteurs. Il s'avère que chaque pays membre a une liste de secteurs engagés. Donc cette liste pour chaque pays membre de l'OMC a été établie en 1995 et en 2005, chaque pays membre verra sa liste s'agrandir. Donc chaque pays membre aura l'obligation d'engager de nouveaux secteurs ou d'engager plus fortement, plus amplement, plus intensément des secteurs déjà engagés.
Par exemple, moi, Petite France, par exemple, j'ai décidé de ne pas engager pour l'instant la distribution, mais j'avais lâché la communication en 95. Tel autre pays, lui, par contre, peut avoir donné le tourisme, mais pas... C'est un petit peu ça, c'est
tout à fait.
Une espèce de marchandage de tapis permanent.
C'est exactement ça. Et ensuite, dans le cours du temps, à peu près tous les 5 ans, les listes devraient s'allonger à l'issue de cycles de négociations.
Et l'idée, c'est d'arriver au bout de ces... il paraît qu'il y a 11-12 secteurs. Le 12e s'appelle autre. Oui. Il y a 12 secteurs. Le but, c'est d'arriver à libéraliser l'ensemble des échanges concernant ces 12 secteurs.
Oui et non. Ça dépend que... Ça dépend le regard que l'on pose sur les choses. Si on lit simplement le texte fondateur de la GCS, il n'y a pas de but ultime. Il s'avère que tous les 5 ans ou tous les 6 ou 7 ans, de nouveaux secteurs doivent être engagés. La libération doit donc être intensifiée, élargie, mais il n'est pas indiqué en aucun point quel est le stade ultime. Donc pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, la question des asymptotes en mathématiques, on peut très bien avoir une progression, une évolution constante, une augmentation, avec néanmoins, au final, un stade final qui soit très éloigné du stade absolu. C'est la question des asymptotes. Donc là, on ne sait pas du tout, a priori, ce que sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le stade atteint, c'est-à-dire le nombre de secteurs par pays qui seront engagés sous la GCS et sous l'OMC. Néanmoins, si on prend le regard des libéraux, les néolibéraux, eux, ont l'intention, ont l'ambition d'exercer des pressions pour que tous les secteurs soient engagés, sauf le noyau très, très, très réduit dont je parlais tout à l'heure.
Et les États, eux, pourraient avoir intérêt à vouloir protéger tel ou tel secteur ?
Alors, il s'avère que oui, bien évidemment. Certains États, d'ailleurs, défendent très fortement, par exemple, l'idée de l'exception culturelle, et donc ont décidé de ne pas engager tout ce qui concerne la culture. Auquel il faut apporter des nuances, toutefois, car la culture apparaît dans l'un des 12 secteurs, et la question de la distribution apparaît dans un autre secteur. Et il s'avère que la culture, en termes de distribution, est généralement considérée dans la partie distribution. Donc, par exemple, la distribution des livres, la distribution de la musique, etc., tout ça, c'est considéré dans la partie distribution. Et là, de nombreux pays engagent ces secteurs via la distribution. Et d'ailleurs, l'Union européenne, au printemps dernier, a demandé au Canada de libéraliser, d'engager le secteur de la distribution de la culture. Or, c'est la même Union européenne qui prône, qui défend très fermement, en tout cas publiquement, au niveau international, le non-engagement de la culture à l'OMC. Là, il y a une contradiction notable et sur laquelle nous devrons nous appuyer. En outre, là, l'Union européenne, il y a eu récemment une parenthèse. Les négociations se font derrière une porte secrète. Tout se fait dans l'obscurité, rien n'est révélé. Les choses ne devraient être révélées qu'à la fin des négociations, c'est-à-dire fin 2004 ou début 2005. Ce qui fait que les citoyens ne peuvent pas participer au travail. Ils ne savent pas où en sont à quel stade sont les négociations. Ils ne savent pas ce que demandent les autres pays à l'Union européenne. Ils ne savent pas ce que l'Union européenne demande aux autres. Les seules choses que l'on sait en général, c'est grâce à des fuites. C'est grâce à des papiers qui tombent des tables de négociation, grâce à des fonctionnaires qui ont pour des raisons diverses et variées, je pense que c'est des sentiments de culpabilité ou qui ne supportent pas cette situation, et ce qui permet à certains militants, notamment des Pays-Bas, de se procurer les états des négociations, ou en tout cas des résumés de ces états, et de nous les procurer. On sait ainsi que, actuellement, l'Union européenne a rédigé un brouillon d'offres initiales de libéralisation, et dans ce brouillon apparaît l'architecture et tout ce qui concerne l'urbanisme. Ce sont des sujets hautement culturels. Donc là, on voit encore une fois l'Union européenne annoncer en public une certaine position, et puis par la bande, sur le côté, de façon discrète et un peu en trichant, je dirais, prendre d'autres positions, aller vers d'autres directions.
Mais quand vous dites secret, c'est secret. Enfin, les personnes qui négocient, c'est qui déjà au départ ?
L'Union européenne possède un seul négociateur à l'OMC. Il s'agit de Pascal Lamy, commissaire au commerce extérieur. Pascal Lamy, en fait, négocie pour les 15 États membres. Néanmoins, chaque État membre a sa propre liste d'engagement. Toutefois, dès 1995, il y a eu une certaine harmonisation entre les listes d'engagement. Alors même si, par exemple, la France et l'Italie n'ont pas exactement les mêmes secteurs, il y a une certaine harmonie entre les deux, un certain rapprochement entre les deux. Toutefois, récemment, avant-hier, nous avons trouvé un brouillon des offres initiales que va présenter l'Union européenne à l'ensemble des États membres d'ici quelques semaines. Et dans ce brouillon, il y a une revendication horizontale, une offre horizontale qui consiste à harmoniser l'ensemble et même à unifier, à s'arranger pour que la plupart des pays offrent la même chose dans de nombreux secteurs. Toutefois, certains secteurs seront exceptionnels et donneront lieu encore à des différences État membre par État membre.
Mais finalement, là où je suis un petit peu étonnée, c'est que vous semblez dire que c'est secret, toute cette affaire-là. Ça veut même dire que les parlementaires ne sont pas au courant ?
Non, ils ne sont pas au courant.
Parce que Pascal Lamy, c'est un haut fonctionnaire, lui.
Alors Pascal Amy est un haut fonctionnaire, effectivement, il a une carrière de haut fonctionnaire.
Des souris des hommes, toujours en compagnie de Marc Delepauve. Alors là, vous me disiez que finalement, on tramait des petites choses derrière mon dos, derrière même le dos de mes représentants, les députés notamment. Mais finalement, on veut libéraliser les services, c'est peut-être tout à fait bien, non ?
En tout cas, les néolibéraux considèrent que c'est tout à fait bien. Mais il faut savoir que les néolibéraux sont fortement guidés, voire au service, des entreprises transnationales. Et au cœur de cette question de la libéralisation planétaire, il y a les transnationales. Alors les transnationales ont, sur la question de la mondialisation, une longueur d'avance, c'est presque un euphémisme que de dire ça, et d'ailleurs une longueur d'avance qui est liée à leur nature sur les États, sur le champ politique et aussi sur le champ syndical. Durant les années 80, 90, en tout cas jusqu'en 95, les transnationales étaient quasiment les seules à avoir un pouvoir organisé au niveau planétaire. En face, il n'y avait quasiment rien. Aujourd'hui a émergé un contre-pouvoir, mais néanmoins il n'y a toujours pas de émerge un contre-pouvoir. Et néanmoins, il n'y a toujours pas de règles au niveau international, de règles en faveur de l'environnement, en faveur de la culture, en faveur des droits sociaux, des droits fondamentaux, etc. Certes, il y a des chartes. Il y a des chartes des Nations Unies, d'ailleurs qui sont limitées dans leur contenu. Mais ces chartes, il n'y a aucun outil pour les mettre en application. Il n'y a aucun outil pour obliger à leur mise en œuvre. Donc l'espace international est en quelque sorte un espace sauvage, où il y a des organisations dominantes, que sont les firmes multinationales. Donc voilà au niveau politique le problème, c'est-à-dire qu'au niveau international, ceux qui ont le pouvoir, ce sont des organismes qui sont tout à fait indépendants de la souveraineté démocratique.
Au point qu'elles se sont coalisées entre elles dans différents instituts, je ne sais pas quel est le terme exact, et qu'ils font un lobbying forcené au niveau de l'OMC, si j'ai bien compris.
Alors, il y a deux choses. D'une part, elles sont organisées en lobby, c'est-à-dire que par secteur, les plus grandes d'entre elles sont réunies, discutent, prennent des décisions, notamment des décisions d'influencer les gouvernements et les populations de telle ou telle manière. Alors, les gouvernements, soit directement les responsables politiques, soit via les hauts fonctionnaires ou les dits experts qui travaillent pour les gouvernements, mais aussi influence directe des populations via les mass médias, via les livres, certains ouvrages, etc. Et d'ailleurs, au niveau de Bruxelles, par exemple, il y a autant de personnes qui travaillent pour les lobbies que pour la Commission européenne. Et il y a des stratégies qui utilisent à la fois la pression sur les gouvernements et la pression sur les populations en simultané pour être sûr de bien faire passer pour bien arriver à leurs objectifs. Donc la grande critique que nous on peut faire sur la question de cette mondialisation et de l'OMC, c'est que l'OMC vient accentuer la mondialisation économique et donc aussi financière, en faisant sauter les frontières, en livrant des secteurs toujours plus importants au marché mondial, lequel marché mondial est dominé par les entreprises transnationales. Donc il y a ces entreprises transnationales qui influencent les États et qui influencent l'OMC pour accélérer ce que fait l'OMC, et d'ailleurs qui ont aussi influencé les États pour créer l'OMC durant les années 85-95. Donc ce sont elles qui sont en gros les architectes de l'OMC, qui poussent l'OMC à avancer dans telle direction, dans une certaine direction, et qui en outre sont les bénéficiaires de cette chose. Donc la boucle est bouclée, le modèle est relativement parfait, sauf que maintenant il y a des grains de sable qui apparaissent.
On se revoit donc la semaine prochaine, peut-être plutôt pour voir de façon peut-être plus spécifique quelles vont être les incidences dans la vie des gens, parce que mon émission s'appelle Mur des Sous et des Hommes, et ça m'intéresse toujours de voir ce deuxième aspect.
Volontiers, merci.
À la semaine prochaine. C'était donc Des Sous et des Hommes, et je me permets juste de vous conseiller un petit livre qui s'appelle « Remettre l'OMC à sa place ». Le texte est de Suzanne Georges, c'est aux éditions des Mille et Une Nuits, et ça doit coûter aux environs de 10 francs à 1,50 euros, comme on dit maintenant. À la semaine prochaine.